20h, c'est l'atome de savoir. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la recherche en France. Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Campus Paris.
L'atome de savoir sur Radio Campus Paris. On parle de science sans en faire un fromage.
On parle de science et aussi de la sphère scientifique aujourd'hui puisqu'on s'interroge sur les enjeux de la recherche, notamment en France. Et pour en discuter, nous recevons Marie Guenier-Faret. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence à l'université Paris-Saclay, chercheur en photovoltaïque au laboratoire GIPS et enseignante à l'IUT de Cachan. Et avec nous, il y aura Vadim qui va m'accompagner toute la soirée, toute l'émission.
Bonsoir à tous.
Nos reporters ce mois-ci s'appellent Jade et Lou. Elles se sont intéressées au problème de l'alcoolisme. Comment aborder la question ? Peut-il être considéré comme une maladie ? Et puis, si vous êtes curieux de savoir comment votre enceinte connectée fait pour vous comprendre, Guillaume sera là en fin d'émission pour l'expliquer.
Salut, moi c'est Vincent. Aujourd'hui, on jase de science. Le sujet d'aujourd'hui, le métier de chercheur. Ou si vous préférez, le plus beau métier au monde.
Le plus beau métier au monde, selon la chaîne YouTube Vincent Jase, un métier qui bénéficie aussi d'une image prestigieuse dans la culture, même fascinante. Nous allons tenter de comprendre les enjeux de la recherche, comment ça fonctionne, puis à quoi ça sert finalement. Si Amazon a dépensé en 2018 22,6 milliards de dollars en recherche et développement, soit environ 12,5% de son chiffre d'affaires, c'est que la recherche, ça doit rapporter. Quant à l'État français, le budget alloué à la recherche s'élevait en 2015 à près de 50 milliards d'euros, soit 2,3% du PIB. La France fait partie des grandes nations scientifiques, aux côtés des États-Unis, la Russie, le Japon, la Corée du Sud, le Royaume-Uni ou encore l'Allemagne. On compte également aujourd'hui la Chine et l'Inde, deux nations qui montent sérieusement en puissance dans le domaine. Bon, certes, une innovation, ça se vend, souvent même très cher. Mais c'est aussi une question de puissance, et c'est surtout une question de puissance. On dit d'ailleurs que les pays les plus avancés technologiquement sont développés. Innover, ça compte donc beaucoup sur la scène internationale. Il s'agit de s'imposer contre des nations, mais aussi et plus récemment contre des entreprises telles que les GAFAM, dont fait partie Amazon, cité plus tôt. Alors, nous, on s'adapte. Le gouvernement a choisi de favoriser l'innovation, notamment pour les petites et moyennes entreprises, via la fameuse loi PACTE d'avril 2019, qui entrera en vigueur en 2021. Il s'agit notamment de débloquer de l'argent frais pour l'injecter dans la recherche, de simplifier les procédures de dépôt de brevets et permettre aux chercheurs du public de passer jusqu'à 50% de leur temps de travail dans une entreprise. Vous n'avez pas fini d'en entendre parler d'ailleurs, car l'État, il y croit dans ces entreprises. C'est aussi ce qui se ressent dans le dernier programme de l'ANR, l'Agence Nationale de la Recherche, appelée LabCom pour Laboratoire Commun. L'idée est de faire collaborer des entreprises et des laboratoires publics sur un projet commun, dans un laboratoire commun, avec un budget commun. Le tout pendant 5 ans. On favorise donc la recherche par projet, pourtant ce n'est pas le seul procédé existant. On parle également de recherche d'exploration, qui, comme son nom l'indique, n'a pas de but défini, mais qui réserve parfois de bonnes surprises. Parce que oui, le but quand même, c'est de trouver quelque chose.
Un bon chercheur, c'est pas seulement quelqu'un qui va donner les bonnes réponses, mais en général, le plus difficile, c'est de poser la bonne question. Donc, les gens créatifs, les gens qui sont toujours à la recherche de nouvelles solutions différentes à des problèmes, c'est eux qui vont avoir le plus de succès en recherche. Mais il faut faire attention, le métier de chercheur, c'est pas très glamour, c'est pas toujours excitant. Moi, je dis toujours que ça prend une sorte de folie un peu spéciale pour apprécier être chercheur. Ça prend quelqu'un qui est prêt à se frapper la tête dans le mur jour après jour après jour, avec l'espoir de percer le mur et de découvrir quelque chose de nouveau.
Bonsoir, Marie Faret.
Bonsoir.
Alors, que représente le métier de chercheur pour vous?
C'est un métier qui est passionnant, bien souvent. Effectivement, il faut être assez créatif, avoir l'envie, surtout, et puis aimer les sciences quand même, un petit peu, surtout dans la recherche scientifique.
Alors, pour vous, qu'est-ce qui caractérise un chercheur dans le domaine public par rapport à un chercheur dans le domaine privé?
Alors, c'est un peu difficile de répondre parce que, bon, déjà, je ne connais pas la recherche dans le privé. Enfin, j'ai jamais travaillé, moi, dans le privé. Souvent, on a une idée un petit peu reçue comme quoi la recherche dans le privé, donc la R&D, s'orientent plutôt vers des applications. Et l'idée, c'est de trouver des innovations pour que l'entreprise elle puisse mettre un produit sur le marché ou qu'elle améliore un procédé de fabrication. C'est surtout avec une application industrielle derrière. Pour la recherche publique, on a de la recherche appliquée aussi et de la recherche fondamentale. Et les entreprises, parfois, sont intéressées par ce qu'on fait dans le public et viennent chercher l'expertise des chercheurs du public. D'où des structures communes du CNRS, des partenariats entreprises, laboratoires de recherche publique ou les LabCom avec les PME et les entreprises ETI.
Alors justement, ces LabCom, on aura l'occasion d'y revenir, mais vous avez eu l'occasion de travailler dans ce cadre-là ?
Alors, pas dans un LabCom, mais en revanche, dans le photovoltaïque, il y a l'Institut de photovoltaïque d'Île-de-France qui est un institut avec des partenaires industriels qui sont Total, Air Liquide, EDF. Il y a après des contrats de recherche qui impliquent des entreprises. Donc, je n'ai pas travaillé dans un LabCom, mais je travaille régulièrement avec des entreprises.
Quel est le point de départ d'une recherche ? Comment ça commence ?
Alors, c'est variable. Ça peut commencer d'une idée où on se dit « Ah bah tiens, ce serait bien de tester ça. » Mais souvent, c'est quand même un petit peu cadré parce qu'on travaille beaucoup par projet, notamment pour l'aspect financier. Ça va être au travers de collaborations, d'échanges avec d'autres chercheurs où on se dit « Ah bah tiens, il faudrait tester ça. » Et puis on commence et après, ça donne quelque chose ou pas. Hein, ça dépend.
C'est fini un peu ce stéréotype du chercheur qui travaille un peu tout seul dans son coin.
Ah oui, complètement. Il y en a peut-être encore quelques-uns, mais ça... Le dynamisme de la recherche, c'est vraiment dans les échanges, dans la collaboration, que ce soit sur le plan national ou international.
Alors, quelles sont les contraintes maintenant ? Donc, vous avez trouvé soit votre idée, soit on vous a donné un projet. Quelles sont les contraintes pour le réaliser ?
Alors, la première contrainte, c'est quand même une contrainte financière. Mine de rien, il faut des sous pour avancer dans la recherche, pour acheter du matériel, pour acheter tout ce dont on a besoin, pour financer aussi des jeunes doctorants ou post-doctorants qui vont nous aider à avancer, qui ont peut-être une expertise que nous, on n'a pas aussi. La première contrainte, elle est quand même financière. Il y a des contraintes de temps aussi. Les projets, ils ont une durée déterminée. Donc, on va essayer d'aller le plus loin possible pour avancer et éventuellement atteindre les objectifs initiaux du projet. Ça c'est pour la recherche publique. Après, je pense que dans la recherche privée, il y a peut-être une exigence de résultats et peut-être d'innovation un peu plus forte que dans la recherche publique ça dépend des projets, mais globalement on est peut-être un petit peu plus libre, j'ai envie de dire.
Alors, dans les recherches que j'ai faites sur la recherche publique, on fait tous des recherches pas dans le même cadre, on m'a dit, hein, quelqu'un qui travaille dans la recherche publique chez WeThings, justement, une entreprise qui fait des montres connectées, des balances connectées et autres objets de ce genre, me dit qu'ils ont aussi de la recherche d'exploration, donc des recherches sans résultat, pas dans le cadre d'un projet, mais que ce sont des recherches qui sont à très court terme, en vue ensuite de créer un projet autour des résultats qu'elles ont donnés. On cherche dans une direction, si ça ne marche pas, on cherche dans une autre. Et puis quand ça marche dans une direction, on va créer un projet concernant cette technologie potentielle qu'on pourrait trouver. Vous, quand on vous donne donc de l'argent, c'est l'ANR, si j'ai bien compris, qui vous finance en général ?
Ça peut être l'ANR, ça peut être aussi des projets européens. Donc, c'est la Commission européenne qui verse de l'argent.
Et donc, quand vous trouvez quelque chose, c'est bien, c'est concluant pour vous. Mais quand vous ne trouvez pas, qu'est-ce qu'il se passe ? Quand l'objectif n'est pas atteint.
On ne se fait pas taper sur les doigts, globalement. C'est en général un projet, même si on n'arrive pas à atteindre les objectifs finaux, il y a quand même des avancées, quelles qu'elles soient. Et donc, ça peut constituer un point de départ pour autre chose, parce qu'on se rend compte que l'idée qu'on avait au début, c'est pas vers ça qu'on voulait. Enfin, c'est pas, ça donne rien. En général, on avance quand même. Même si on n'atteint pas nos objectifs de départ, on avance et ça peut être un point de départ, voilà.
Un nouveau point de départ.
Un nouveau point de départ.
Mais du coup, lorsqu'on voit que c'est pas forcément concluant, en fait, à quel moment on doit se dire qu'il faut arrêter ou abandonner la recherche ou le projet ?
C'est difficile à dire. Après, moi, j'ai une expérience dans un certain domaine scientifique. Finalement, c'est aussi un petit peu les publications qu'il y a, les publications internationales qu'il va y avoir dans le domaine, qui vont montrer que telle piste, elle est vraiment très prometteuse, ou telle autre piste, finalement, ça ne donne pas grand-chose. Donc, c'est au travers des expériences d'autres chercheurs aussi qu'on va s'orienter vers une voie plutôt qu'une autre. Une recherche, on ne se dit pas du jour au lendemain, c'est bon, stop, j'arrête. Des fois, il y a des contraintes aussi de temps. On avance sur plusieurs projets en même temps. Et puis finalement, on se rend compte que l'un va donner des résultats beaucoup plus intéressants, plus prometteurs. Donc, l'autre projet va être un petit peu moins... on va moins s'y intéresser, on va dire. Et petit à petit, ça s'arrête. Voilà, naturellement.
Et alors parfois, donc ça n'aboutit pas, mais parfois ça aboutit, et même parfois c'est même mieux que ce qu'on imaginait. Ça peut amener à déposer un brevet. Mm-hmm. Ça vous est arrivé dans votre laboratoire ?
Oui, ça nous est arrivé dans le domaine du photovoltaïque. Nous, on travaille sur des matériaux et des structures qui permettent d'améliorer les rendements photovoltaïques. Et en fait, il y a un brevet il y a 3 ans qui a été déposé par mon équipe de recherche. Sur une structure complètement nouvelle pour les cellules photovoltaïques. Donc oui, bien sûr.
Alors voilà, à ce propos, tout à l'heure, donc j'ai pu interviewer un ingénieur brevet, c'est Bertrand Claire. Donc tout de suite, on parle de brevet.
C'était mon idée. On a quand même les brevets, ils ont de la valeur, non ?
D'un point de vue légal, ils appartiennent à Prévic.
Qu'est-ce qu'il veut dire par là ?
Rien, c'est technique, laisse tomber. Barnet a ébauché une seconde lettre assez virulente. Il te la montrera si tu veux.
Autre lettre ? Une lettre ? Ils ont volé ce qui nous appartient.
Oula, alors maintenant, fais attention au langage. Les mots comme voler sont à éviter.
Bon, à quoi il sert, lui ?
Un extrait d'Un éclair de génie, le film sur la personne qui a inventé les essuie-glaces de voiture. Bonjour Bertrand Claire. Bertrand Claire, vous êtes ingénieur brevet. Tout d'abord, en quoi ça consiste, le métier d'ingénieur brevet ?
Alors, le métier d'ingénieur brevet consiste principalement à acquérir et à défendre les droits. Alors, le petit plus, c'est que quand un ingénieur brevet travaille dans un cabinet, il va travailler pour des clients. Donc, en cela, le métier se rapproche de celui d'un avocat. Lorsqu'il travaille en entreprise, il va du coup acquérir et défendre les titres de son entreprise qui se trouve être son employeur. C'est un métier qui peut se pratiquer directement après un diplôme de master ou d'ingénieur, ou après une thèse. En règle générale, pour pratiquer ce métier, il faut au moins une qualification juridique supplémentaire, c'est-à-dire la plupart des professionnels sont passés par le diplôme universitaire de Strasbourg. Il y a d'autres formations possibles, notamment des masters de droit, dans des universités de région parisienne ou de province, éventuellement à l'étranger. Et en plus donc de ce minimum requis, du diplôme juridique et du diplôme scientifique, il y a des qualifications supplémentaires qui sont les qualifications de conseil en propriété industrielle et de mandataire en brevet européen, qui se passent après 3 ans de pratique professionnelle. Et chacune de ces diplômes supplémentaires permet à l'ingénieur brevet de faire de la procédure écrite ou de la procédure orale directement devant l'Office européen des brevets ou devant l'Institut national de la propriété industrielle pour la France.
D'accord. Vous avez sans doute entendu parler de la loi Pacte. Il est dit sur economie.gouv.fr que la loi Pacte encourage l'innovation et que pour cela, ils vont réduire tout l'administratif qu'il y a autour du brevet. Ils vont faciliter le dépôt de brevet, surtout pour les PME.
Oui, alors c'est un des objectifs. Alors, déposer un brevet reste relativement simple. Il suffit de se rapprocher d'un conseiller en propriété industrielle dans un cabinet ou, pour les entreprises qui en ont déjà, de faire appel à ses propres ressources internes. Principalement, donc il y a un contact qui est fait, plusieurs réunions, et la rédaction de pair entre, d'une part, le conseil mandataire en brevet européen lorsqu'on fait un dépôt au niveau européen, et puis les inventeurs, puisque c'est eux qui ont le savoir technique et c'est eux qui connaissent l'invention dont on cherche à obtenir la protection par brevet.
Ça coûte combien environ de protéger une innovation?
Alors, d'un principe général, donc il y a les honoraires du conseil ou du mandataire, les taxes de dépôt, éventuellement des taxes supplémentaires lorsqu'on dépose une demande de brevet volumineuse. En gros, il faut compter 5 à 6 000 euros pour un dépôt. Mmh. Ça, c'est pour les honoraires de rédaction. Ensuite, il faut rajouter parfois 2 à 2500 euros de taxes lorsqu'on dépose directement au niveau européen. Par contre, lorsqu'on dépose au niveau français, les PME bénéficient de tarifs préférentiels, ce qui fait que, en tout cas, faire un premier dépôt en France est beaucoup plus compétitif d'un point de vue économique que de déposer au niveau européen.
Mais quand on dépose en France, du coup, notre innovation, elle est protégée uniquement en France, si j'ai bien compris.
Alors, effectivement, le droit des brevets étant un droit territorial, si vous déposez en France, vous protégez d'abord votre invention en France. Néanmoins, le système des brevets existant depuis, en tout cas depuis la Convention du Nom de Paris pour sa forme internationale, il est possible de déposer ensuite sa demande de brevet dans d'autres pays. Alors, il faut faire les dépôts dans d'autres pays sous un an pour pouvoir revendiquer ce qu'on appelle la priorité. C'est-à-dire, par exemple, vous déposez le 1er janvier, dans le 2 janvier, parce que le 1er janvier, c'est fermé. Le 2 janvier à l'INPI en France. Et là, vous avez 2 janvier 2020. Vous allez avoir jusqu'au 2 janvier 2021 pour pouvoir déposer votre demande dans d'autres pays et revendiquer la priorité. Et en fait, cet artifice juridique permet de faire comme si votre demande avait quand même été déposée le 2 janvier 2020, même si vous l'avez déposée de manière effective, par exemple, devant l'Office américain des brevets, fin septembre 2020.
Ça, c'est quelque chose qui est dans la loi Pacte ou qui est déjà en place?
C'est quelque chose qui est déjà en place depuis la Convention du Nom de Paris, à la fin des années 1880.
Alors, qu'est-ce que va changer la loi Pacte à ce niveau-là?
Alors, la loi Pacte va faciliter l'idée de la loi Pacte, c'était vraiment d'aligner la procédure française sur la procédure européenne. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec déjà l'activité inventive, qui est une des conditions de brevetabilité, qui va se retrouver être évaluée. Aujourd'hui, de manière générale, dans tous les pays, pour avoir un brevet, il y a 3 critères à satisfaire. Il faut que l'invention soit nouvelle, c'est-à-dire qu'elle n'existe pas telle qu'elle dans l'état de la technique, qui est formée par tous les documents, je dis bien tous les documents, qui ont été publiés le jour avant, le jour du dépôt de la demande de brevet. Il faut que l'invention présente une activité inventive, c'est-à-dire que cette invention ne doit pas être évidente pour l'homme du métier, c'est-à-dire que partant d'un document qui est considéré comme étant le document d'inventaire le plus proche, il combine différents enseignements techniques, il ne doit pas pouvoir arriver à l'invention. Donc là, c'est une notion qui est un peu plus juridique, qui est moins opérationnelle. C'est un peu une fiction juridique, cette histoire de l'homme du métier. Par contre, la nouveauté est absolue. Si votre invention est déjà décrite quelque part telle qu'elle, votre invention n'est pas nouvelle. Donc il n'y a pas de droit au brevet. Le dernier critère, c'est le critère d'application industrielle. C'est-à-dire que votre invention doit être applicable dans n'importe quelle industrie. à cela, il y a un premier critère, en fait, mais qui est un critère implicite, qui est ce qu'on appelle la notion d'invention. Il faut d'abord qu'on soit bien en face d'une invention pour laquelle on demande un brevet. Alors, une invention, pour la jurisprudence européenne, c'est une solution technique à un problème technique. Par exemple, pour fixer les idées, un design de voiture n'est pas une invention, parce que ça n'a pas de caractère technique. Par contre, si vous faites un design spécifique dans le but de résoudre, par exemple, un problème lié à de l'aérodynamisme ou à des problèmes d'écoulement laminaire, de mécanique des fluides, et bien là, vous pouvez avoir un brevet puisque vous avez une solution technique qui a potentiellement la forme de votre objet, ou un problème technique qui est, on va dire, la fluidification d'écoulement sur une surface, par exemple.
Mais alors, pour reprendre l'exemple du design de la voiture, c'est illégal de copier le design d'une voiture. Comment il est protégé ?
Alors, il est protégé, le design est protégé par des dessins et modèles, qui est un type de propriété industrielle.
D'accord, c'est pas un brevet, alors, mais c'est un autre type de propriété industrielle.
Un autre type de titre de propriété industrielle. On n'a pas le droit de copier un design, on n'a pas le droit de copier une marque, de contrefaire un brevet. Et donc, quand on contrefait un brevet, en fait, c'est comme une violation de propriété, en fait. On s'approprie quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre, puisqu'un brevet, c'est avant tout un type de propriété.
Oui.
Et donc, lorsqu'il y a une contrefaçon potentielle, il faut faire vérifier s'il y a bien contrefaçon. Et une fois que cette contrefaçon se retrouve être, en tout cas, un niveau de probabilité assez élevé, il faut entamer une action en justice.
D'accord. Et alors, d'un autre côté, comment ça rémunère un brevet ? Pas forcément en chiffres, mais déjà, comment ça marche ?
Alors, un brevet va rémunérer, donc déjà, on a l'inventeur. L'inventeur va être rémunéré au titre d'une invention de mission. Enfin, il y a plusieurs types d'inventions. Il y a l'invention de mission, l'invention hors mission, l'invention hors mission attribuable. Bon, c'est des catégories qui ont été mises en place par le législateur. Mais en gros, quelqu'un qui est inventeur sur un type de brevet a, sauf cas particulier, le droit à une rémunération supplémentaire. Bon. Donc il y a l'inventeur qui est déjà rémunéré en tant qu'inventeur. Ensuite, le propriétaire en fait, du brevet peut être rémunéré en vendant son titre, ou le copropriétaire en vendant une partie de son titre, ou en le mettant, en le louant, c'est-à-dire en passant à contrat de licence, et dans lequel il va obtenir une contrepartie à ce contrat de licence qui est une contrepartie financière. Comme louer un terrain, voilà, comme louer votre invention, qui va être utilisé par quelqu'un d'autre que vous, et à ce titre-là, vous recevez des royalties.
Pour vous, dans quelle mesure il est important de protéger la propriété intellectuelle ?
C'est une manière de sanctuariser sa propriété. Donc pour une entreprise, c'est la sanctuarisation des gains suite à la vente de produits, et pour une ou l'obtention de rémunération sur la base des licences. Donc c'est fondamental, et aussi c'est une manière de pouvoir se protéger des contrefacteurs. Des contrefacteurs.
Oui. Donc justement, ça m'amène à la question suivante. Quel danger menace la propriété intellectuelle ?
Clairement, la contrefaçon. Alors, la contrefaçon a toujours existé. Mais ce qui menace, c'est l'absence de réponse juridique, l'absence de mobilisation des pouvoirs publics contre la contrefaçon. En tout cas, pour la France et au niveau européen, c'est pas le cas. Il y a une grosse prise de conscience depuis plusieurs années de ces problèmes-là. Et donc, il y a un arsenal juridique qui est là pour ça. Et actuellement, aujourd'hui, le pays qui était très critiqué, qui était celui de la Chine, on se retrouve avec maintenant une prise de conscience au niveau de la Chine pour des problématiques de contrefaçon. Et donc, la mobilisation et la mise en place d'un cadre légal et de cours spéciales liées à la propriété industrielle en Chine, par exemple.
Ah, ça n'existait pas du tout avant ?
Si, ça existait, mais là, il y a vraiment une prise de conscience et un développement massif pour répondre aux standards internationaux dans la matière.
Vous travaillez sur la propriété intellectuelle, donc les brevets, à qui appartient tel ou tel savoir. Maintenant, ce savoir-là, après, il s'agit de le vendre. Il s'agit de le vendre à d'autres entreprises, j'imagine. Comment ça se passe, la communication autour d'un brevet, de façon à ce qu'il attire des gens qui l'utilisent ou qui veulent le racheter ?
Alors, on ne communique pas autour d'un brevet. Soit on a on a une entreprise qui se retrouve intéressée par les technologies, à ce moment-là, qui va voir l'entreprise qui est propriétaire du brevet. Soit on a potentiellement un contrefacteur, okay, on va lui faire une proposition de licence, puis comme ça, on oublie un peu tout et il n'y a pas de contentieux judiciaire. Donc ça, c'est pour l'aspect entreprise. Alors aujourd'hui, avec la valorisation de la recherche, les choses ont un peu évolué. On se retrouve avec des sociétés qui cherchent à valoriser les brevets de la recherche publique. Donc là, qui vont aller faire du démarchage en disant, voilà, nous, on a tel type de technologie qui est brevetée. On vous propose de prendre en licence ou de monter dans un projet de maturation pour co-développer la technologie. Et après, vous serez licencié des brevets parce que vous pourrez utiliser ces brevets afin de développer et puis finalement de vendre les produits qui ont été développés à partir de cette technologie-là. Donc il n'y a pas une enchère au brevet, disons qu'il y a une recherche d'intérêt mutuel.
D'accord, donc il n'y a pas spécialement d'envie de s'enrichir lorsqu'on dépose un brevet, c'est juste dire c'est moi qui ai trouvé ça, c'est ma propriété.
Bah, ça dépend, pour une start-up c'est absolument vital, parce que souvent ils ont 3-4 brevets et c'est vraiment ça qui permet de sanctuariser la propriété derrière de pouvoir assurer le retour sur investissement et les financements. Dans le cas de gros boîtes, des choses qui sont moins stratégiques puisque les titres sont parfois simplement pour les publications annuelles de dépôt de brevets et de statistiques de délivrance.
Donc ça veut dire que on est plus dans une logique de grosses boîtes qui absorbent ou qui se servent des petites startups, de ce que trouvent les petites startups pour avancer.
Ça peut être le cas aussi, effectivement. Elle peut se servir de ça pour acheter les boîtes et notamment le portefeuille brevet. Donc ça c'est possible. Après, des startups qui n'intéressent pas du tout des grosses sociétés, donc par conséquent, qui ont besoin quand même d'un portefeuille de brevets pour pouvoir sanctuariser leur technologie.
Merci Bertrand Clerc, je rappelle que vous êtes ingénieur brevet. Merci beaucoup de vous être entretenu au téléphone aujourd'hui avec moi. Tout de suite, on continue, on va écouter le reportage de Jade et Lou qui se sont interrogés sur l'addiction à l'alcool. On écoute ça tout de suite sur Radio Campus Paris.
Je ne crois pas qu'on soit alcoolique en France. Ah oui, on boit du vin.
L'alcoolisme est-il une maladie ? Tel est le sujet de ce reportage.
Jean-Philippe Prondier, je suis psychiatre et psychanalyste. Donc je suis par ailleurs addictologue, avec un intérêt notamment pour l'alcoolologie.
Je suis Claire Deschelette, vice-présidente au tribunal de grande instance de Créteil.
On parle d'alcoolisme, on peut parler également d'alcoolodépendance, donc qui fait référence au concept de dépendance, lui-même se déclinant sur deux versants, dépendance physique, c'est ce qu'on appelle le syndrome de manque, quand le corps appelle l'alcool. Quant au manque psychique, cela se traduit essentiellement par un besoin impérieux de prendre de l'alcool. Bien sûr, c'est la dépendance à l'alcool qui caractérise l'alcoolisme. Avec deux versants, le premier versant, c'est un versant continu pour des patients qui consomment de l'alcool quotidiennement. Pour d'autres patients, ils peuvent être dépendants sur un tout autre versant qui est celui de prise ponctuelle, où ce qui est en jeu, c'est l'absolue impossibilité de contrôle d'une consommation d'alcool à partir du moment où l'on a commencé à en prendre. Cela s'appelle la dipsomanie.
En France, l'alcool, c'est la deuxième cause évitable de mort après le tabac, c'est 49 000 morts.
On parle volontiers de maladies concernant l'alcoolisme, c'est même un terme qui a un certain succès et qui a l'avantage, disons-le, de déculpabiliser, pour une part importante, les patients qui sont porteurs de ce trouble, l'alcoolisme. Il est certain que les personnes alcooliques sont l'objet d'un déterminisme qui leur échappe. Alors, une maladie, au sens médical, renvoie à un mauvais coup du sort. En va-t-il de même pour une personne qui est alcoolique ? Alors, sans doute, non. Sur un plan éthique, on est toujours responsable de ses actes. Et l'acte de boire, nul ne saurait se déresponsabiliser de cet acte. Cette dimension de la responsabilité de celui qui boit ne peut être absolument éludée. Et, par ailleurs, un obstacle inhérent à la notion de maladie caractérisant l'alcoolisme, un obstacle, c'est le fait que le patient alcoolique puisse se dire « bon, j'ai eu une maladie et je vais me soumettre inexorablement à l'évolution d'un destin », éventuellement passivement à des prescriptions, là où il est évident que la responsabilité du patient doit s'engager pour advenir un changement, éventuellement une guérison.
Le traitement de l'alcoolisme en tant que maladie s'arrête là où commence la responsabilité individuelle. En cas d'altération, la personne reste pénalement responsable, mais la sanction pénale est atténuée quant à sa gravité.
Et ça peut s'appliquer donc sur des cas de patients alcooliques ?
Alors précisément non. La jurisprudence estime que l'imprégnation alcoolique est une circonstance aggravante de la personne auteur des faits. En consommant de l'alcool, s'est placé volontairement dans une situation qui l'a désinhibé et qui l'a rendu incapable de contrôler ou de comprendre ses actes.
Comment soigne-t-on l'alcoolisme ? C'est une grande question. L'alcoolisme étant en effet volontiers rebelle à beaucoup de traitements. Donc il est certains médicaments, certains traitements qui ont une indication pour diminuer l'envie de boire. Ces médicaments sont très peu efficaces.
Écoutez-moi bien, j'ai fabriqué des comprimés qui contiennent un produit à base de plantes médicinales.
De plantes médicinales?
Celui qui absorbe un seul de ces comprimés ne supporte plus le goût de l'alcool. Et la toute première personne sur qui j'en ai fait l'expérience, c'est vous, capitaine.
Moi? Vous avez osé faire ça, sinistre farceur, tortionnaire cannibale?
Alors, il est des techniques qui se sont développées et généralisées, que l'on appelle entretien motivationnel, avec pour viser de tenter de lui faire prendre en considération à la fois la dimension de son alcoolodépendance, et de tenter de susciter chez le patient une envie de diminuer, voire d'interrompre sa consommation. Là aussi, c'est une technique qui certainement connaît certaines limites, notamment par le fait qu'elle ne se donne pas pour objet de s'intéresser aux causes. Et s'intéresser aux causes, c'est essayer d'aller rechercher les déterminismes qui amènent en fait à voir le traitement de l'alcoolodépendance, non pas comme le traitement d'un symptôme, mais plutôt ce que l'on viserait, ce serait un traitement plus global en s'intéressant à la fois à l'histoire de sa vie.
Mais qui prend en charge le traitement de l'alcoolisme ?
Les autorités prévoient la prévention et les soins, et donc c'est la solidarité nationale qui assure le traitement de l'alcoolisme.
Catherine, ancienne alcoolique et encadrante chez Alcool Assistance.
Je m'appelle Catherine Bridier-Déhay. Je suis bénévole au sein de Alcool Assistance et je suis membre d'Alcool Assistance, malade abstinence, depuis 1993. Je suis arrivée à la Croix d'Or fin 92. J'étais malade, comme les autres qui viennent ici, j'étais pareil. C'est une association qui a été fondée en 1910.
La meilleure manière de soigner l'alcoolisme ?
Enfin, l'accompagnement. Et donc, quand on fait notre discours, quand on lui dit « Essaie pendant 6 mois, 1 an, tu verras. Tu vomiras plus le matin quand tu te laves les dents. Enfin, des tas de choses terre à terre. » J'ai dit « Tu vas voir. Tu vas avoir l'impression d'avancer et puis tu vas avoir l'impression de piétiner et peut-être de régresser. Tu laisses faire. Et puis après, ça repart. »
Vous, ça fait combien de temps que vous êtes abstinente ?
27 ans et demi. Pour moi, je ne suis pas guérie, je suis en rémission. Je suis stabilisée dans mon abstinence. L'alcool, pour moi, c'est le diable.
Et un reportage signé Jade et Lou. Merci à elles. On les retrouvera donc le mois prochain.
L'atome de savoir, vous en reprendrez bien une part ?
Nous revenons à notre question sur la recherche avec Marie Guenier-Faret. Vous êtes chercheuse en photovoltaïque au laboratoire GIPS. Et puis professeur à l'UT de Cachan. Tout à l'heure, on a écouté Bertrand Clerc, ingénieur brevet, donc qui nous a parlé de tout le juridique, de tout le cadre administratif du brevet en France surtout et en Europe aussi. Est-ce que vous avez un retour sur ce qu'il a expliqué ?
Surtout l'importance de protéger en fait l'innovation, la propriété intellectuelle, de vraiment cadrer ça. Dans la recherche, il y a effectivement le dépôt de brevets, il y a aussi le dépôt de savoir-faire qui est moins cadré, on va dire, d'un point de vue législatif, mais qui permet quand même de décrire un savoir-faire, donc quel qu'il soit, que ce soit le développement d'une technique, par exemple, qui n'utilise pas, où il n'y a pas forcément une invention particulière, mais l'association de différents matériels ou techniques déjà existants permet de déposer un savoir-faire. Et puis après, il y a la protection aussi au niveau de la création de logiciels. Là aussi, c'est légiféré.
Oui, c'est de la propriété intellectuelle, plutôt ça va du côté des droits d'auteur, si je m'abuse. Vadim.
Mais du coup, il y a une différence bien concrète entre un brevet et un savoir-faire. Mais du coup, la circonstance pour déposer un brevet, bon, on a compris, c'est quand on invente quelque chose. Mais quand est-ce qu'on dépose un savoir-faire ?
En fait, ça peut être parce que, quelque part, le brevet n'est pas validé. Le dépôt de brevet n'est pas validé ou finalement, on va dire... ça ne réunit pas les conditions pour faire un brevet. En revanche, ça correspond à un dépôt de savoir-faire. La nuance, elle n'est pas toujours évidente à voir. Moi, j'ai un exemple dans mon laboratoire d'un chercheur qui a développé une technique de caractérisation en utilisant un matériel... à transformer de Fourier, et en fait, le matériel, il existe déjà, simplement, il a développé toute une technique autour de cet appareil avec des fibres optiques, l'apport de lumière via des diodes électroluminescentes, tout un tas de choses qui fait que ça correspond à un savoir-faire plutôt qu'à un dépôt de brevet. Mais sa technique en tant que telle, elle est propre, c'est lui qui l'a développée, donc c'est vraiment un savoir-faire. Je ne sais pas si ça éclaircit un petit peu les choses.
Alors, on a vu tout à l'heure que maintenant, la recherche... marchait beaucoup par projet, qu'il y avait beaucoup moins dans la recherche publique de recherche d'exploration, comme on a dit tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que la recherche évolue, mais est-ce que ça peut représenter un danger pour la recherche française, de fonctionner que par projet ?
Je ne pense pas que ça représente vraiment un danger, parce que ça apporte quand même un certain dynamisme et ça force aussi à la collaboration, parce que les projets, c'est des projets de collaboration avec d'autres laboratoires, alors nationaux, européens, internationaux, avec des entreprises éventuellement. Et donc, ce qui est plus contraignant, c'est l'aspect temporel, où on nous dit qu'il faut faire ça pendant 3 ans, vous avez cet argent-là. Et ce qui est plus dangereux, on va dire, c'est si un laboratoire ne décroche pas un projet, du coup, il n'a pas de financement. Et là, ça devient difficile pour ce laboratoire en question. Donc, ça veut dire il faut être toujours en activité, en collaboration avec d'autres chercheurs pour réussir à monter des projets ensemble et à avoir des financements. Donc le danger, il est plus dans l'aspect on n'a pas de projet, donc on n'a pas d'argent, donc on ne peut pas avancer dans nos recherches.
Et donc quand vous n'avez pas d'argent, pas de projet, pas d'argent, comment ça se passe pour la rémunération ?
La rémunération de qui ?
Des chercheurs alors, dans le public.
Les chercheurs, ils ne sont pas rémunérés par les projets. Les chercheurs, que ce soit chercheurs du CNRS, donc du Centre National de la Recherche Scientifique, ou les enseignants-chercheurs comme moi, on est rémunérés par l'État, on est des fonctionnaires. Donc, ce n'est pas des projets qui vont nous rémunérer. En revanche, les projets peuvent permettre de payer des doctorants, des post-doctorants. Et donc, si on n'a pas cet argent-là, eh bien, ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir recruter des jeunes qui constituent un vrai support, un vrai soutien dans la recherche. Parce qu'un chercheur confirmé, mine de rien, il n'a pas forcément beaucoup de temps parce qu'il a d'autres activités, d'autres responsabilités. Et finalement, les doctorants et post-doctorants, c'est vraiment essentiel au fonctionnement d'une équipe, d'un laboratoire. Donc, il faut de l'argent pour les financer.
Donc, du coup, quand on parle de financement, il y a l'aspect entreprise qui va rentrer en jeu. Est-ce que vous pensez que la recherche 100% publique est en danger aujourd'hui ou même à l'avenir, dans un avenir proche ?
Non, je ne pense pas. L'avantage qu'on a dans la recherche française, quand même, c'est que, mine de rien, on a des postes de chercheurs permanents. Donc, Ça confère une vraie stabilité. J'ai un exemple hier où j'ai assisté à une soutenance de stage de master d'un jeune qui est parti au Japon, dans un laboratoire au Japon. Et en fait, dans certains laboratoires étrangers, il va y avoir le professeur qui passe son temps à chercher des financements. Et tout le reste de l'équipe, c'est des gens qui sont là pour une durée déterminée. Et finalement, ce jeune homme s'est débrouillé complètement tout seul pendant son stage. Donc, c'est très formateur, mais c'est quand même difficile, surtout à l'étranger. Dans la recherche française, le fait d'avoir des chercheurs permanents, ça permet d'avoir un encadrement qui est quand même assuré, qui est stable, et du coup, d'avoir un vrai suivi dans les activités de recherche. Parce que quand il n'y a que des gens qui sont là pour 2-3 ans, finalement, la pérennité, elle n'est pas assurée.
Alors, si vous deviez créer un institut de recherche, dans quel domaine vous feriez des recherches ? Qu'est-ce qui est la tendance actuelle des projets ?
Alors, la tendance actuelle, la grande mode du moment, c'est tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle. Donc, ça...
En tout cas, dans le domaine des technologies...
Dans le domaine des technologies, oui, bien sûr. Après, les autres domaines, je ne sais pas. Enfin... Mais donc, tout ce qui est intelligence artificielle, effectivement, c'est vraiment le grand... le domaine phare du moment. Après, créer un institut ou un laboratoire, finalement, hormis le côté LabCom ou structure commune avec une entreprise... l'idée, elle est plus à regrouper des laboratoires et des universités, des établissements de l'enseignement supérieur pour avoir tout un réseau d'expertise sur un même lieu. Donc, il y a ce qu'on appelle les communes, les communautés d'universités et d'établissements. Paris-Saclay en est un exemple. Vous en avez à Grenoble, vous en avez un peu partout en France. Et donc, l'idée, c'est d'avoir... plein d'expertises sur un même lieu géographique. Bon, il peut y avoir quelques sites un petit peu éloignés, mais globalement, on regroupe à la fois ces établissements d'enseignement supérieur et des établissements de recherche. Donc, la création d'un institut ou d'un labo, bon, c'est plus peut-être créer une équipe de recherche au sein d'un laboratoire qui travaille, je ne sais pas, dans la robotique, dans peu importe.
Oui, c'est plus pertinent.
Ouais.
Mais du coup, on va reparler des LabCom. Que pensez-vous justement du programme LabCom ?
Ah, moi, je trouve ça super, personnellement. Ça dynamise vraiment la recherche, à la fois d'un point sur le plan des labos publics, pour les entreprises... Ça leur permet d'aller chercher des experts qu'ils n'ont pas chez eux. Donc, les LabCom, c'est pour les PME et ETI financés par l'ANR. Après, il y a aussi les structures communes de recherche pour des labos du CNRS, où ça peut être avec des entreprises de beaucoup plus grande taille. Il y a des associations entre un labo du CNRS et PSA, par exemple, ou avec un labo qui fait de la recherche sur la dermatologie et puis l'entreprise Urgo pour les pansements. Enfin voilà, il y a plein de... Et pour moi, c'est extrêmement précieux. Et on n'est plus à l'époque où l'entreprise et la recherche fondamentale se regardaient un petit peu en chien de faïence. Ça a vraiment évolué et ça donne un vrai dynamisme dans ces activités-là.
Cela dit, il reste quand même des différences assez importantes entre la recherche en entreprise et la recherche dans le public, notamment la rémunération, si je me trompe pas.
Dans le public, on n'est pas très bien payé. Mmh. Oui. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. On aime notre métier. Je ne connais pas les salaires. Je connais pas exactement les salaires des chercheurs dans le privé, mais après, dans le public, on a plein d'autres choses.
Vous avez une sûreté de l'emploi, déjà ?
Oui, c'est vrai, mais on a aussi une grande liberté dans notre métier. Moi, c'est ce que j'aime. Cette liberté, cette flexibilité, c'est Voilà, c'est ce que j'apprécie.
Même si ça fonctionne par projet, vous avez quand même une grande liberté.
Oui.
C'est super. Très bien.
Il n'y a pas cette contrainte qu'a une entreprise à être ultra performante dans la recherche.
Oui, il y a peut-être un petit peu de ça. Bon, après, il faut quand même avancer. Oui. Sans avoir forcément une obligation de résultat, on veut quand même avoir des résultats. Parce que nous, la reconnaissance, elle passe via la reconnaissance de nos pairs aussi, à travers les publications, notamment les publications internationales. Et donc, voilà, si ça fait partie de notre reconnaissance et il faut qu'on publie. Donc, il y a quand même du travail à faire. Hein. On ne se tourne pas les pouces.
Alors, maintenant, quel est votre rôle, le rôle de la recherche pour vous dans le développement économique et le développement tout court même d'un pays ?
Je pense que c'est la première marche, on va dire, vers l'innovation. Et l'innovation, de toute façon, elle fait partie du développement économique. Quand on met des produits innovants sur le marché, quand on développe des innovations pour des procédés industriels parce qu'on veut améliorer la rentabilité. Donc ça fait... Et la recherche, elle est le socle de tout ça. Donc elle est essentielle au développement économique du pays.
Enfin, on va aborder la question de la parité homme-femme dans la recherche, pardon, notamment dans le milieu de la technologie. Puisque vous, Marie Guenier-Faret, vous êtes donc dans le photovoltaïque, donc c'est plutôt électronique, électrotechnique. Dans ce domaine-là, bon, on imagine qu'il n'y a pas la parité homme-femme, mais comment ça se répartit à peu près ?
Alors moi, je suis plutôt côté, on va dire, un peu de la physique, électronique. On n'est pas nombreuses. On doit être entre 15%, 20% dans mon laboratoire de femmes. Mais globalement, ça, si on remonte un petit peu plus haut, c'est au niveau des études supérieures déjà, ou dans les études techniques, il y a aussi très peu de femmes. À l'IUT de Cachan, les promotions de DUT, les filles peuvent se compter sur les doigts des deux mains, on va dire. Et en école d'ingénieur, c'est pareil. Il y a 20% de filles, grosso modo. Peut-être certaines années, il y en a 25%, mais globalement, on n'est quand même pas très nombreuses.
Et d'une manière générale, la tendance est à l'augmentation ?
Oui, je pense, parce qu'il y a une vraie volonté quand même d'attirer des jeunes femmes vers les métiers de la recherche. Ensuite... Le ministère aussi impose des quotas pour faire des commissions, des jurys. Il faut qu'il y ait un certain pourcentage de femmes. Alors, ça a un effet pervers aussi, hein, quand même, parce qu'on peut avoir la remarque « Ah oui, toi, t'es là parce que t'es une femme. T'es pas là pour tes compétences, t'es là parce que t'es une femme. » Mais parce qu'on doit avoir 50% de femmes dans un jury, donc voilà, on va aller chercher les femmes qu'on a à portée de main. Donc j'exagère un petit peu, mais grosso modo, ça évolue un petit peu, mais très 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 doucement quand même. Je pense que c'est pas encore...
Qu'est-ce qu'il faudrait faire, à votre avis, pour que ça augmente plus rapidement ?
C'est au niveau déjà des études. Il faut aussi que les jeunes filles elles aient une attirance pour ça, et c'est pas forcément évident de... Je pense qu'il y a un aspect socio-culturel fort là-dedans. C'est pas évident d'attirer des jeunes filles vers les technologies, vers tout ce qui est technique, les sciences dures, on va dire.
Merci, voilà. Marie Guenier-Faret, d'avoir accepté notre invitation, d'être venue jusqu'ici à
Merci
Radio
à
Campus
vous.
Paris. Tout de suite, on va retrouver Guillaume Peter. Alors, vous pouvez écouter la chronique de Guillaume Peter, vu qu'il va parler de FFT, de transformé de Fourier. Donc, on l'a évoqué rapidement en début d'émission. Alors, Guillaume, ça va ?
Ça va très très bien. Et je vais vous inviter à faire un merveilleux voyage que vous allez adorer. Nous allons tous partir, non pas au Pays des Merveilles, mais en cours de maths.
Ah c'est super, c'est exactement ce qu'on voulait.
Ne le prends pas comme ça, Gaspard. Je vais tout expliquer sans maths, donc ça va très bien se passer. Nous allons donc parler de la FFT, qui signifie en anglais Fast Fourier Transform, et en français transformé de Fourier à temps rapide. Cet outil mathématique n'est pas bien complexe à comprendre, mais est très utile. Quelques-uns d'entre vous ont déjà pu se demander comment modifier une voix ou comment accentuer les basses d'une musique. Eh bien, aujourd'hui, nous allons comprendre comment tout cela est possible. Avant de rentrer dans les détails, nous allons parler des fréquences. La fréquence, c'est une mesure qui permet de compter le nombre de répétitions d'un motif en une seconde. Lorsque je dis motif, il faut voir cela au sens large. Cela peut être les battements d'un cœur en une seconde ou alors les tours par seconde d'un ventilateur. Et son unité, Gaspard, c'est quoi ?
Bah, c'est les hertz, Guillaume. J'ai fait une école d'ingénieur aussi.
Oui, je sais, mais c'était pour être sûr.
Bon, et du coup, entre les hertz et le son, qu'est-ce qui se passe ?
J'y viens, patience. Vous savez tous que votre voix peut produire des sons aigus et des sons graves. Eh bien, les sons aigus ont une haute fréquence et les sons graves ont une fréquence plus basse. Votre voix est en fait un signal qui bouge en fonction de deux choses. La première est l'intensité sonore. Par exemple, si je crie ou si je chuchote. La seconde est la fréquence de votre voix, qui se traduit par une voix aiguë ou grave. Lorsque je parle d'une fréquence pour la voix, en fait, c'est faux. Je veux vous mentir, parce que je schématise beaucoup. En effet, votre voix change constamment. C'est-à-dire que quand on parle, nous avons besoin de faire des mots pour faire des phrases, le tout sur un certain ton. Donc, lorsqu'on parle, on fait varier le signal qui sort de notre bouche en intensité et en fréquence. C'est pour cela que notre voix est constituée de plusieurs fréquences. Ces fréquences portent l'information quand on parle.
Mais du coup, ça donnerait quoi un signal avec une seule fréquence ?
Bah ça, tu l'entends tous les jours, hein, quand t'appelles cette fille que t'as draguée en boîte la semaine dernière parce qu'elle répond pas. Hein. C'est le fameux signal d'une seule fréquence qui est la tonalité du téléphone. Pour revenir à la FFT, je l'appelle par son petit nom parce que j'ai beaucoup fréquenté cette transformée dans mes études. Alors, cette transformée de Fourier va justement nous permettre de récupérer ces deux informations, à savoir la fréquence et l'intensité. Si on analyse une voix, par exemple, nous pouvons obtenir, avec la FFT, un graphe qui sera constitué de pics. La position de ces pics dépendra de leur fréquence. Les pics de plus basse fréquence seront vers la gauche de mon graphe, et les pics de plus haute fréquence seront vers la droite de mon graphe. Et la hauteur de ces pics dépendra de l'intensité sonore de chaque fréquence. Si on écoute son chanteur préféré sur ses écouteurs avec un faible volume, la hauteur des pics sera basse. Et plus on augmente le volume, plus la hauteur des pics augmente.
Donc cet outil mathématique, c'est juste ce graphe.
Oui, mais ce graphe nous permet de faire un très grand nombre de choses. En effet, si j'ai l'analyse sonore de la voix d'une personne, je peux, en déplaçant les pics de mon graphe vers la droite, changer sa voix et la rendre plus aiguë. Ou au contraire, en déplaçant mes pics vers la gauche, je peux rendre sa voix plus grave. Bien évidemment, les logiciels qui permettent de truquer une voix font des manipulations plus complexes. Mais ils modifient ces deux grandeurs caractéristiques qui sont la fréquence et l'intensité sonore de chaque pic. Les applications dans le domaine sonore sont nombreuses. On peut par exemple couper les basses d'une musique et il ne reste donc que les aigus. Je viens en fait supprimer les pics les plus à gauche de mon graphe qui correspondent aux fréquences les plus basses. Et cela marche de même avec les fréquences aiguës. L'application Shazam, qui est une application qui reconnaît les chansons, utilise ce même principe de fonctionnement. Lorsque l'application entend une musique, elle en fait la FFT et vient comparer le graphe obtenu avec des centaines de milliers d'autres graphes qui sont stockés dans une base de données. C'est aussi grâce à ce genre de comparaison que votre enceinte connectée reconnaît chaque mot que vous employez. Par la suite, avec un logiciel adapté, elle constitue des phrases à partir des mots dans le but de comprendre ce que vous avez dit. Mais la FFT est aussi beaucoup utilisée en électronique et dans les télécommunications pour vérifier que le signal que l'on transmet n'est pas perturbé et que l'information que l'on transmet est toujours correcte. J'espère qu'après cette courte présentation sur la FFT, j'aurai répondu à vos questions les plus fréquentes. Pour plus de détails, demandez à votre enceinte connectée.
Et merci beaucoup, Guillaume, de cette petite chronique de vulgarisation sur la transformée de Fourier. Alors, c'était comment ?
Bravo, non, chapeau, franchement.
Merci beaucoup.
C'était dur hein, de faire de la vulgarisation, c'est pas facile comme exercice pour nous.
Oui, et il va falloir qu'on s'habitue.
Merci encore Marie Guenier-Faret d'être venue dans cette émission. Merci à vous de nous avoir écoutés. À la réalisation, c'était Bruno Liuzzi et l'attaché de production de l'Atome de Savoir, c'est Johanna Blin. Vous venez d'écouter le pilote de l'émission L'Atome de Savoir qui a été enregistré le 14 septembre dernier avec Marie Faret. Notre émission revient le 5 décembre, non pas à 20h mais à 21h exceptionnellement. En attendant, vous pouvez nous réécouter sur radiocampusparis.org et nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous avons un compte Twitter, une page Facebook et un compte Instagram. Le mois prochain, nous parlerons de vulgarisation et de l'enseignement de la technologie en France. Alors à très bientôt et en attendant, portez-vous bien.